Maxime. Nous sommes tous les deux élèves administrateurs à l'INET et membres du groupe thématique Environnement. Ce groupe réunit une trentaine d'élèves de l'INET qui veulent mettre la transition écologique au cœur de leur métier et de leur engagement pour le service public. Avec le groupe, nous avons voulu faire ce podcast pour vous montrer que les agents et élus territoriaux ont beaucoup de moyens d'agir en faveur de la transition écologique, même si ceux-ci ne sont pas toujours bien connus. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur ceux qui s'occupent à la fois de l'éclairage, de la police, de l'eau et de la gestion des déchets, et ceux qui demeurent les élus préférés des Français. J'ai bien sûr parlé des maires et de leurs communes. Les communes sont maintenant regroupées en établissements publics intercommunaux, ou EPCI. Ce sont les communautés de communes, communautés urbaines, métropoles. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Ces EPCI permettent à plusieurs communes de gérer en commun certaines compétences ou infrastructures. Communes et EPCI forment ce que l'on appelle le bloc communal, et ce bloc communal a de nombreuses compétences clés pour la transition écologique. Nous allons en parler tout de suite avec Maxime, et nous allons commencer par la base. La base, c'est le pouvoir de police du maire. Cela signifie que le maire peut prendre des mesures de droit, individuelles ou réglementaires, pour protéger l'environnement. Et je laisse maintenant la parole à Maxime, qui va nous en parler plus précisément.
Merci Priscille. Effectivement, le pouvoir de police peut être un levier ou un instrument important en matière de transition écologique au niveau local. Pour rappel, avant, il y a deux types de pouvoir de police. Il y a tout d'abord le pouvoir de police général, qui permet au maire de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à l'ordre public, que ce soit la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique. Et également les pouvoirs de police dits spéciaux, où là les mesures sont un peu moins larges et plus encadrées, mais peuvent être prises pour des motifs qui sont plus larges que le seul ordre public classique que j'ai précédemment énoncé. Ça peut concerner par exemple l'environnement ou l'urbanisme par exemple. Et sur ce dernier point, les maires ont plusieurs pouvoirs de police spéciaux en matière environnementale. Ils peuvent par exemple réglementer sur leur commune la pollution sonore, la circulation dans les espaces naturels, mettre en fourrière un véhicule qui a servi au dépôt illégal de déchets par exemple, et à ce titre, il peut prononcer des sanctions pécuniaires.
Vous nous montrez donc que ce pouvoir de police est un pouvoir essentiel du maire. Mais est-ce qu'il est vraiment efficace pour faire cesser les atteintes à l'environnement ?
Eh bien, au titre des pouvoirs de police, force est de reconnaître que le maire aujourd'hui n'est pas un acteur majeur, encore une fois toujours au titre des pouvoirs de police. Ils sont pour autant pas forcément négligeables, ça reste un levier qui est utile. Il a été progressivement renforcé, par exemple aujourd'hui, les maires peuvent mettre en demeure d'évacuer un véhicule d'usage qui est abandonné. Mais force est de reconnaître que voilà, ils sont quand même limités et de plus en plus par la croissance des pouvoirs de police d'autres acteurs, à commencer par ceux du Premier ministre et du préfet, qui sont les deux autres grandes autorités en matière de pouvoirs de police. Le maire, par exemple, n'a pas été reconnu compétent pour pouvoir réglementer l'usage de pesticides aux abords des habitations.
Si on remonte un peu dans le temps, à l'origine, un des fondements du pouvoir de police du maire, c'est la préservation de la salubrité. Aujourd'hui, pour préserver la propreté dans leur commune et sur leur territoire, les maires ont également comme compétence la gestion des déchets. En la matière, que peuvent faire les maires pour favoriser un changement des comportements ?
Les maires, plus que les maires, là encore, c'est plutôt une compétence indirecte, car le législateur la donne plutôt aux EPCI, et on le comprend aisément. Il est plus simple et moins coûteux de disposer d'un seul service pour plusieurs communes qu'une multiplication de services pour quelques rues seulement. Les EPCI, donc, sont donc compétents pour la collecte et le traitement des déchets. Il y a différents enjeux en la matière aujourd'hui. Il y a l'amélioration de la collecte et du tri des déchets. Les communes ou les EPCI peuvent à ce titre développer des points de compost, qu'ils soient gratuits ou non. Ils peuvent également développer la méthanisation, ou ils peuvent encore édicter des consignes de tri qui soient diffusées à large échelle auprès des usagers. Un autre enjeu, c'est la réduction de la quantité des déchets produits. Et là, il y a plusieurs leviers possibles. Il y a renforcer l'information auprès des usagers, que ce soit par le biais, par exemple, de rapports annuels, d'individualisation des factures ou en renforçant la transparence des coûts. Et il y a enfin le levier de la tarification, puisque les EPCI peuvent instaurer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou une taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec une part incitative, qui concrètement fera payer un coût plus important à l'usager s'il émet plus de déchets. À voir, en revanche, si ça reste un levier pertinent, en fonction du niveau d'élasticité pris sur l'enlèvement des ordures ménagères, qui n'est pas forcément évident.
On voit donc dans ce que vous nous dites qu'entre la lutte contre les décharges sauvages et la volonté de réduire la quantité de déchets produits, les communes cherchent et tâtonnent pour trouver les bonnes manières d'agir. Est-ce que vous avez trouvé des communes particulièrement engagées en la matière ?
Il y en a évidemment un très grand nombre. Je donnerai un exemple, c'est celui de la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire, qui a développé des composteurs partagés sur demande des habitants. Aujourd'hui, ces bacs sont par exemple autogérés, ce qui est plutôt innovant.
C'est intéressant, on voit que le bloc communal a donc vraiment des moyens d'agir pour que la quantité de déchets produits se réduise petit à petit. On a donc parlé des déchets, c'est un sujet central, mais on sait que à l'échelle nationale, l'activité la plus polluante, c'est le transport. Et dans l'empreinte carbone des ménages, c'est vraiment le transport qui arrive en premier, parce que la majorité des gens ne peut pas envisager sa vie quotidienne sans voiture thermique. Le bloc communal gère les transports en commun, ou au moins une partie des transports en commun, et peut donc faire en sorte que cela change et que les individus changent leur comportement en matière de transport.
Effectivement, comme tu l'as dit Priscille, ce sont les EPCI qui sont largement compétents en matière de mobilité. La loi LOM de 2019 désigne les EPCI comme autorités organisatrices des mobilités. À ce titre, elles peuvent encadrer et gérer plusieurs mobilités, que ce soit les bus, les tramways, les métros, le transport scolaire ou encore le covoiturage par exemple. Et les enjeux en la matière sont nombreux. Il y a évidemment au premier chef la diminution de la place de l'automobile. Des exemples de mesures d'actualité particulièrement innovants en la matière, on a évidemment l'instauration des zones à faible émission ou ZFE qui sont devenues obligatoires dans les EPCI de plus de 150 000 habitants d'ici 2025. Avant ou dès aujourd'hui, on a déjà des exemples de ZFE qui ont été déployés dans plusieurs communes. Je peux citer Lyon, Toulouse, Nice, Montpellier ou encore Strasbourg qui en ont déjà une. Cette ZFE, elle permet de limiter, voire d'interdire la circulation de certains véhicules polluants dans certaines agglomérations. D'autres exemples et de leviers pertinents, il y a la communauté urbaine de Dunkerque qui a instauré une gratuité des transports en commun. Et enfin, il y a le développement évidemment des pistes cyclables. Les exemples en la matière sont nombreux. Il y a évidemment Paris et Lyon, mais je citerai aussi un exemple d'une plus petite commune. C'est celle de Niederhausbergen en Alsace, dont l'aménagement reposait sur deux voies départementales. Aujourd'hui, on voit qu'elle a développé de nombreuses pistes cyclables puisqu'elle a un réseau qui relie toute la ville et elle a permis également de développer des pistes, y compris sur ces deux voies à l'abri de ces routes.
Quand on parle de transport, il y a un sujet majeur qui est à prendre en compte, c'est l'urbanisme et l'aménagement. En effet, on peut demander aux gens de prendre davantage leur vélo et leur transport en commun, mais s'ils habitent de manière isolée, loin de tout, ce n'est pas très efficace. Aujourd'hui, on sait que les Français parcourent en moyenne 14 km pour se rendre au travail depuis chez eux. Et c'est une distance bien trop grande pour prendre son vélo. Favoriser la transition écologique, c'est donc aussi aménager le territoire de sorte à réduire les déplacements subis. Et ça aussi, le bloc communal peut y contribuer. Maxime, vous pouvez nous en parler.
En effet, le bloc communal, comme tu l'as dit Priscille, a la compétence en matière de documents d'urbanisme et d'aménagement urbain, mais aussi de la délivrance des permis de construire et des actes relatifs à l'occupation des sols. Les documents, que sont les schémas de cohérence territoriale, dits SCOT, ou les plans locaux d'urbanisme, dits PLU, ainsi que les cartes communales, sont autant d'exemples donc de documents de planification et qui sont tout à fait adaptés pour intégrer les enjeux de la transition écologique. Ils permettent de planifier l'usage de l'espace sur le temps long en édictant des règles. Ainsi, ils peuvent répondre à cet enjeu fort qu'est la lutte contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Ces phénomènes sont d'une ampleur considérable. La croissance de l'artificialisation représente l'équivalent d'un département français tous les 7 ans. Rapporté à la densité de population, l'artificialisation en France est ainsi plus forte que les principaux États membres de l'Union européenne. Mais le phénomène est quand même d'une ampleur inégale. Il est très prononcé, par exemple, dans les métropoles dynamiques du sud et de l'ouest de la France, et au contraire, il est plus réduit dans des zones comme le centre ou le Grand Est.
Quels sont les leviers pour lutter contre cette artificialisation ?
Eh bien, un des principaux leviers, c'est la densification. Il est nécessaire de densifier les villes. Selon le GIEC, un doublement de la densité urbaine serait à même d'entraîner une baisse de 25% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Les documents d'urbanisme vont en outre devoir décliner le principe de zéro artificialisation nette imposé d'ici 2050 par la loi Climat et Résilience. Ils peuvent par ailleurs imposer des normes qui rendent les villes denses plus vivables, par exemple imposer une hauteur pour les bâtiments, renforcer un certain esthétisme urbain en imposant de la verdure ou en créant davantage de parcs, par exemple. La ville de Lorient, à titre d'exemple, qui n'a plus de foncier disponible, a érigé l'esthétisme urbain en leitmotiv.
La densification est effectivement une piste intéressante et souvent évoquée, mais comme vous l'avez dit, il faut faire attention à la concilier avec le nécessaire respect des espaces verts en ville, qui sont un lieu nécessaire à la qualité de vie, mais aussi un lieu de refuge pour toute la petite biodiversité des villes. On sait par exemple que dans la ville de Paris, les trois quarts des moineaux ont disparu depuis le début des années 2000, du fait de la disparition de leur habitat. C'est un sujet qui ne sera pas abordé dans ce podcast, mais qu'il faut garder à l'esprit aussi quand on parle d'urbanisme. On va maintenant parler de la thématique de l'eau. Ces derniers jours, le président de la République a présenté son plan eau, et ce plan a notamment pour objectif de faire des économies d'eau de 10% d'ici 2030. Comment les communes peuvent contribuer à cet objectif ?
Bien, là, pour rappel, les communes ont l'obligation d'assurer la distribution d'eau potable ainsi que l'assainissement. Ce qui concerne la production, le transport ou le stockage d'eau potable, c'est facultatif. Et les enjeux sont forts en matière d'eau au niveau local, puisque on subit aujourd'hui en France une augmentation de la fréquence des sécheresses. Deux tiers de la France a subi par exemple des restrictions d'eau en 2019. Et les enjeux locaux sont forts, notamment réduire les fuites de réseau. Le syndicat des eaux de Beaufort, en Bretagne, par exemple, a développé un réseau intelligent avec des écoutes renforcées du réseau, ainsi que des dispositifs d'alerte pour prévenir les usagers en cas de pénurie et les inciter à faire des économies d'eau. Ces derniers peuvent par exemple être informés des horaires de coupure pour mieux les prévenir et s'y préparer. Un autre exemple de compétence et de levier de gestion au niveau local de l'eau, c'est la compétence dite GEMAPI pour gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, où les EPCI sont compétents en matière d'investissement, notamment investir dans des bassins de rétention, des structures de ralentissement, développer des chaussées perméables par exemple pour limiter les écoulements. Il y a clairement un lien aussi avec le sujet dont on parlait tout à l'heure de réduction de l'imperméabilisation des sols et de l'artificialisation des sols. Il y a des leviers et des exemples intéressants, notamment dans les milieux ruraux, en particulier le dialogue avec les agriculteurs. Il est intéressant aujourd'hui pour les EPCI de les inciter à maintenir des haies ou avoir une couverture végétale plus importante, ce qui permet là encore de réduire les écoulements. Un des leviers intéressants, ça peut être de passer des bons ruraux environnementaux.
Après l'eau, on peut maintenant parler d'alimentation, puisque ce sont les collectivités locales qui assurent la restauration scolaire. Que peuvent faire les communes pour favoriser une alimentation plus durable ?
Là encore, pour rappel, la restauration scolaire constitue un service public facultatif. Toutefois, lorsqu'il est créé, ce service public se doit de respecter un ensemble de règles quant à la composition des repas. Donc les leviers sont importants. En particulier, dans ses obligations depuis la loi dite EGalim, les repas servis en restauration collective doivent depuis le 1er janvier 2022 compter au moins 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% qui soient bio. En matière de restauration scolaire, donc, les enjeux sont forts. D'une part, l'alimentation est fortement émettrice de gaz à effet de serre. Elle représente ainsi un quart des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Un menu moyen proposé en cantine scolaire émet près de 2 kg d'équivalent de dioxyde de carbone, soit environ 10 km en voiture ou la production d'un gros livre de poche, par exemple. D'autre part, au regard de ces volumes d'achat, la restauration scolaire peut servir de levier pour accompagner la transition dans laquelle les agriculteurs sont engagés, passant d'une agriculture intensive et mondialisée à une agriculture biologique et de proximité. Enfin, la restauration scolaire s'inscrit dans une transition écologique solidaire. Elle participe en effet de la lutte contre les inégalités en offrant un repas de qualité aux enfants les plus défavorisés, en ayant une tarification adaptée et en participation de l'éducation au bien manger, qui est évidemment un levier important dans la promotion de la santé.
Un exemple de commune particulièrement investie à nous donner ?
Là encore, les exemples sont nombreux. Parmi les exemples de collectivités ayant mené une action volontariste en matière de restauration scolaire, on peut par exemple citer le cas de la commune de Vannes en Bretagne, qui a mis en place en 2019 une régie maraîchère pour son approvisionnement de 3 des 5 cuisines de ses crèches municipales. Cela permet un approvisionnement qui soit bio, local et ultra frais.
Merci beaucoup. On va en venir maintenant à un sujet qui fait particulièrement débat depuis quelques années, c'est celui de l'éclairage public. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Eh bien, l'éclairage public constitue un véritable enjeu environnemental, économique, de sécurité et d'embellissement du cadre de vie. Il représente en moyenne 50% de la facture électrique d'une commune et près de 20% de sa dépense globale en énergie. La décision de réduction de l'éclairage public peut être justifiée par des considérations écologiques telles que la baisse de la consommation d'énergie. Les exemples de communes s'étant inscrites dans cette démarche se sont multipliés avec le contexte de la guerre en Ukraine qui entraîne des tensions sur le marché de l'énergie et un impératif de sobriété énergétique. Quelques exemples, il y a par exemple des communes qui se sont engagées sur la voie de la rénovation. Il s'agit par exemple de Toulouse, en Haute-Garonne, qui avait engagé un plan visant à faire disparaître les lampes à sodium pour les remplacer par des lampes LED d'ici 2026, qui sont moins consommatrices. Mais il y a des communes qui sont allées beaucoup plus loin, qui ont pris le chemin de l'extinction de l'éclairage d'une partie de l'éclairage public. Et certaines communes ont été précurseurs. Il s'agit par exemple de Colomiers, toujours en Haute-Garonne, à côté de Toulouse, qui s'étaient engagées depuis 2015 dans cette démarche d'extinction de l'éclairage public qui avait généré des économies conséquentes chaque année. D'autres exemples, c'est celui des 11 communes du parc naturel régional des Mille Vaches dans le Limousin qui sont aussi allées sur cette voie de l'extinction partielle et qui ont permis à ces communes de gagner le label village étoilé et qui ont permis notamment aussi de développer ce qu'on appelle l'astrotourisme.
En matière énergétique, on peut aussi citer le rôle des communes en matière de réseau de chaleur.
Tout à fait. Au terme de l'article L2224-38 du Code général des collectivités territoriales, les communes sont compétentes en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid. On peut ici citer l'exemple de la métropole de Bordeaux, qui compte de nombreux réseaux de chaleur permettant de chauffer un ensemble de bâtiments grâce à une chaufferie collective et des canalisations isolées situées sous les voiries, acheminant l'eau chaude au pied de chaque bâtiment où elle est ensuite redistribuée par le chauffage central. Celui du quartier Ginko, à Bordeaux, est par exemple alimenté par une chaufferie bois. La commune de Béthune, dans le Pas-de-Calais, par exemple, a elle développé un réseau de chaleur particulièrement compétitif, puisqu'il utilise le fameux grisou, ce gaz de mine naturellement présent dans les anciennes galeries des mines de charbon.
On va finir ce podcast en parlant d'une compétence qui est partagée entre tous les niveaux de collectivité, le tourisme. Le tourisme est évidemment d'abord une chance pour un territoire, elle le rend attractif, elle crée des emplois. Pourtant, on a pu le voir dans les calanques autour de Marseille, on peut le voir aussi sur les plages de Thaïlande notamment, le tourisme de masse est une vraie menace pour les écosystèmes naturels. Comment les communes peuvent faire pour essayer à la fois de tirer le meilleur du tourisme et de limiter ses effets négatifs?
En effet, si le tourisme est une source de revenus pour un territoire, il n'est pas dénué d'impact sur l'environnement, en particulier sur les milieux naturels. C'est d'ailleurs tout l'enjeu des grands sites que d'assurer une gestion durable de leurs sites touristiques, ou encore des parcs naturels régionaux qui cherchent un équilibre entre développement économique et préservation du patrimoine naturel, culturel et paysager. Certaines collectivités se sont déjà saisies de la question de la conciliation du tourisme et de la préservation de l'environnement. Par exemple, le programme Quiétude Attitude, qui a été développé entre les parcs naturels régionaux des Ardennes, des Vallons des Vosges et du Haut-Jura, ainsi que de la communauté de communes de la vallée de la Bruche. Ce programme vise à faire connaître auprès d'un large public la localisation de ces fameuses zones de quiétude et de promouvoir les bons réflexes à adopter dans la nature pour préserver le calme nécessaire à la faune pour survivre.
Merci beaucoup Maxime. Nous arrivons à la fin de notre exploration des nombreuses compétences du bloc communal. On a vu les cantines scolaires, les déchets, la gestion de l'eau, la construction des bâtiments, autant de sujets qui font que les communes sont incontournables pour toute la transition écologique. Ce podcast a été préparé par Faustine Coache, Guillaume Garcin et Maxime Géol ici présents, qui en plus nous a fait l'honneur de participer. Il a été enregistré grâce à l'aide de Jean-Michel Carsouza, en charge de la web radio du CNFPT. Merci beaucoup à tous et bonne journée.